RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Et vous, quelle est votre équipe de cœur? En avez-vous une seulement? Ce jeudi commence au Brésil le plus grand événement sportif d'un point de vue populaire avec les Jeux Olympiques. C'est le plus regardé. La Coupe du Monde de football passionne la planète entière, diffusée dans 213 pays, des dizaines de milliards de téléspectateurs si l'on cumule les audiences. Une compétition à part, la seule sans doute capable de déclencher des élans patriotiques, de faire descendre des gens dans la rue, drapeau à la main, et pas seulement les supporters habituels du ballon rond. Quel que soit le pays, les peuples se rangent derrière leur équipe nationale, s'y assimilent parfois, avec des tensions, des sentiments de revanche, que cela peut parfois déclencher. Une passion, parfois aussi exploitée par les dirigeants politiques. La Coupe du Monde de football, miroir des fiertés nationales, grand reportage signé Bruno Faure, Bruno que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Un gymnase dans Paris à la Cité Universitaire Internationale.
Alors je vous présente mon équipe, Elvin, Miguel, Amine, Seb et Midi.
Chaque lundi soir, ballon au pied, des étudiants de plusieurs pays font et refont leur Coupe du Monde. Les Espagnols, venus en force, rêvent d'un nouveau titre pour leur sélection, l'équipe nationale.
On va mettre une grosse raclée comme ça.
On va arriver à demi-finale. Bon, bon.
Je pense qu'ils sont tous contre l'Espagne. C'est les rivaux.
Moi, je veux surtout pas que la France gagne parce que sinon ils vont pas arrêter de se moquer des mois et tout.
Je sais pas, l'Espagne gagne trop, c'est chiant. C'est énervant.
C'est ça les Français à chaque fois, voilà.
C'est énervant, ils gagnent tout le temps. Il faut passer un peu le flambeau là, c'est pas équitable.
Ah, je comprends. Attends.
Amis sportifs, bonjour. Ici le mondial. Allez, roulez la balle.
Tous les 4 ans, le même rêve chez les supporters, voir leurs favoris briller devant le monde entier. Le temps de quelques matchs, une nation assimilée à une équipe. Grande figure du journalisme sportif en France, Pierre-Louis Basse a plusieurs fois couvert le mondial, un événement unique et romantique.
Il est peut-être, à la différence des grandes compétitions européennes qui appartiennent au club, il est peut-être paradoxalement le dernier événement qui met vraiment en confrontation des nations du football. Avec leur culture, y compris dans la mondialisation. C'est tous les 4 ans, c'est la rareté. Et en cela, oui, c'est romantique. C'est un événement que nous attendons. Donc qu'on attend, on est un peu dans le désir, un peu dans la fièvre. En cela, oui, c'est un événement qui échappe encore à l'uniformité de la Ligue des Champions et qui ont fait exploser les nations du football.
Et une deuxième mi-temps qui démarre à l'instant même avec le ballon dans les pieds de Michel Platini entouré de maillots blancs.
Le football, terrain des rivalités nationales, surtout lorsqu'une rencontre tourne au psychodrame. 8 juillet 1982, France, Allemagne de l'Ouest, demi-finale du Mundial espagnol.
Bonne balle de Platini pour Batista.
À côté.
Aïe, c'est pas vrai.
Et encore une fois, Schumacher.
Il a pas fait le voyage.
Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez.
Le geste brutal du gardien allemand. La victoire de la RFA après un improbable retournement de situation, le sentiment d'injustice chez les Français.
Totalement, je congratule. C'est la très très dure sanction de ce match que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
C'est des matchs qui vont rester toute une vie.
Ich bin le dentiste de Baptiste.
Michel Hidalgo était le sélectionneur des Bleus. 32 ans plus tard, il nous raconte avec émotion ce qu'un journaliste de Paris Match avait qualifié de troisième guerre franco-allemande.
Il y a des choses que je ne peux pas dire, hein, mais les Allemands étaient devenus des boches, alors qu'il y a longtemps qu'on avait oublié cela. Moi, j'ai essayé de ne pas tomber dans l'excès, il y avait suffisamment de gens qui le faisaient, ça. Pas les joueurs. Les joueurs, non, ils n'ont pas connu la guerre. Mais dans le public, quand je suis monté voir les... C'était les boches. Le public ramenait ça à la guerre de 40.
Sad Varum, une chanson présumée humoristique, en 82, elle alimente en France une germanophobie latente. Cet épisode est relaté et décrypté par le journaliste Chérif Guémour dans son dernier livre « Terrain miné, quand la politique s'immisce dans le football ».
Nous avons les moyens de te faire parler.
L'antagonisme, il était encore prégnant.
dans l'inconscient collectif français, l'Allemand, c'était encore un peu l'ennemi. Encore un peu. Ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne a battu la France. Et c'est vraiment l'Allemagne caricaturale, c'est-à-dire l'Allemagne de Roubaix, c'est-à-dire le mec qui fait 2 mètres, costaud, avec une agression, alors que la France a dominé. Et toute la presse, en général, a ressorti des éditoriaux vengeurs, enfin avec des allusions au nazisme. Mais c'est du premier degré, hein. C'est des allusions à la puissance allemande. Et en face, c'est le brave poilu, quoi. Et c'est surtout les milieux politiques, Helmut Schmidt et Mitterrand, donc, qui ont signé un communiqué commun pour apaiser les tensions parce que ça prenait des proportions et qui a surpris beaucoup de gens parce qu'on croyait qu'on avait dépassé tout ça avec la construction européenne et puis la réconciliation franco-allemande. On a cru que tout s'était apaisé et pas du tout.
Oh, nearly the first goal of the 2002 World Cup.
Le football, continuation de la guerre par d'autres moyens. Ainsi titrait le Times britannique avant un match, là encore contre l'Allemagne. Chauvinisme, patriotisme, nationalisme, la frontière est souvent poreuse. La Coupe du Monde est parfois l'occasion de prendre des revanches sur l'histoire. C'est aussi le cas en Afrique, qui n'a été invité qu'en 1970. Pascal Charitas est sociologue et historien du sport sur le continent.
L'on voit notamment sur des matchs avec les anciennes tutelles coloniales, donc des matchs par exemple du Sénégal contre la France.
Les Bleus ratent leur premier match dans la Coupe du Monde à Séoul. Les champions du monde en titre ont été battus par le Sénégal 1-0. La déception des supporters français. Et à Dakar, explosion de joie, un pays en fête.
Nous avons gagné! Le coq ne peut pas tuer un lion!
Et là, on voit bien que il y a aussi cet élément de fierté mélangée et de revanche sur l'ancien colonisateur qui va donner une particularité ou une saveur spécifique à la rencontre du fait justement de cette histoire en commun et cette volonté de battre finalement sur le plan sportif eh bien, ces anciennes puissances.
Sénégal 2002, Cameroun 90, Algérie 82, les exploits africains en Coupe du Monde ont marqué les esprits, réveillé la fierté des peuples concernés.
Indomptable lion, nous sommes unis et décidés, nous défendrons notre drapeau.
Mais pour que le charme agisse, il n'y a pas que la victoire qui compte, nous dit Pascal Charitas.
Pour les pays africains et pour les peuples africains, l'équipe nationale doit représenter toute la nation. Et donc les dirigeants vont essayer justement, par une sorte d'équilibre des joueurs issus de différentes ethnies qui sont plus ou moins principales, sans délaisser les ethnies plus minoritaires dans ces pays, vont essayer de recréer une sorte de micro-société finalement, par cette équipe nationale de football, pour que la nation tout entière se reconnaissent dans l'équipe nationale et qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. La force, quelque part, du sport, qui est beaucoup sur la symbolique et les valeurs, c'est d'essayer justement de faire rêver, de faire accéder à un idéal qui, dans la réalité, est complètement tout autre. D'amener à penser que eh bien, l'équipe nationale est bien la représentation de la nation.
Une équipe de foot, étendard d'une nation multiculturelle. Le cas se présente aussi en Europe. La Suisse, par exemple, terre d'asile de nombreux joueurs issus de l'ex-Yougoslavie. Pierre et Alain sont entraîneurs au Servette de Genève, l'un des grands clubs du pays.
Ils se retrouvent tous, malheureusement, c'est que pour cet événement. Et quand cet événement il se passe, voilà, je ne vais pas dire que c'est... Comment dire, il y a du racisme, ah oui, voilà quoi.
Mais c'est vrai que la nation entière est derrière, on sent que tout le monde est derrière.
Comme l'Allemagne qui s'est ouvert beaucoup de Turcs qui sont de nationalité allemande, ainsi beaucoup de pays comme ça quoi.
Qu'ils soient portugais, kosovars, albanais, on sent que la nature attire tout le monde.
Ouais, ça cache justement que pour ce truc, on ne va pas parler de ce qui se passe réellement et tout le monde est uni pour un événement.
Une équipe mosaïque étendard de la diversité. France 98. Même ceux qui n'étaient pas nés connaissent le refrain et les héros de l'époque, comme l'attaquant Bernard Diomède.
En France, c'était quelque chose d'exceptionnel parce que ça a permis de rassembler les gens du sport et ceux qui n'étaient pas forcément du sport.
Et en plus, il y a eu la victoire au bout. Donc c'était forcément une très très belle aventure et qui s'est bien finie.
Et c'est fini ! L'équipe de France est championne du monde ! Vous le croyez ça ? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh putain !
De Sailly, Zidane, Barthès et les autres, l'équipe de France Black Blanc Beurre fait se lever les foules de toutes origines et veille l'espoir du succès de l'intégration.
1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées et pour tout le monde, les mêmes héros. Cette équipe de France où chacun peut trouver son idole.
Zidane, il est du même patelin que nous, de Béjaïa, Algérie. On est très content d'être venu ici en France pour supporter l'équipe de France.
C'était allé bien trop vite, redit aujourd'hui Pierre-Louis Basse, auteur d'un essai sur le sujet.
La France devient championne du monde. Et alors on assiste brusquement à une espèce de délire, de logorée. Vous allez voir ce que vous allez voir, la croissance va repartir. J'ai entendu, moi, des philosophes très sérieux qui s'expriment encore aujourd'hui nous dire, le soir même, la croissance va repartir, vous allez voir, l'intégration est réussie, formidable. Ben non. Non, nous avions raison d'être quelques-uns à être sceptiques, parce que quelques mois plus tard, le stade de France était envahi au cours de France-Algérie, et c'était bien la démonstration que le foot est une chose, mais qu'autour du foot, il faut un projet éducatif, il faut un vrai partage, qu'il faut une société qui ne soit pas uniquement attirée vers et aimantée par le foot et par le sport. Attention à ne pas laisser s'installer un retour d'un patriotisme bête et violent.
On vend du shampoing !
Depuis une dizaine d'années, les sketchs ou chansons parodiques se multiplient au sujet des Bleus. Trop payés, pas assez travailleurs. Les Français, 60 millions de sélectionneurs, attendent mieux que des fiascos sportifs, une tricherie même, pour aller au Mondial sud-africain. Jusqu'à ce 20 juin 2010, la blessure de Naïsna, des joueurs en direct à la télévision qui refusent de s'entraîner.
Pendant qu'une partie des joueurs signe des autographes, l'histoire de l'équipe de France bascule dans un psychodrame inédit. Le capitaine Patrice Evra annonce à Raymond Domenech que les Bleus vont faire grève de l'entraînement. « Vous êtes fous », semble dire le sélectionneur, qui pointe les 200 journalistes installés sur la colline. Les joueurs regagnent le bus. Ulcéré par l'affront, le représentant de la fédération quitte le champ de bataille. Il est au bord des larmes.
Le sociologue Stéphane Beau avait écrit un ouvrage « Traître à la nation ».
On a utilisé le mot de désamour. À l'époque, je pense pas que c'était pas un mot faux, quoi. Il y avait vraiment un sentiment de trahison, de blessure symbolique très importante, parce que ce qui était atteint à travers cette grève, ce qui a été atteint, c'est une forme de fierté nationale. Et là aussi, bon, on peut ironiser, on peut se moquer de cette expression de fierté nationale, mais je pense qu'elle peut exister. C'est pas honteux d'être fier d'appartenir à un pays. Les Bleus, voilà, ils sont investis, ils sont institués comme représentants de la nation, et c'est quand même pas un hasard si le président Nicolas Sarkozy, un mois ou deux mois avant, avait dit, ce serait quand même bien que vous nous rameniez la Coupe du Monde en France, parce qu'on est dans un pays qui est quand même économiquement dépressif et ça pourrait faire du bien au moral de la nation. Il ne s'agit pas de tout politiser dans le foot, mais c'est vrai qu'il y a quand même des formes d'attachement par le foot qui permettent aux gens de se sentir un peu mieux dans leur pays, parfois.
Allez, si vous gagnez les Bleus, tout ira beaucoup mieux. La France viendra danser sur les Champs-Élysées. Tout le monde sera content, surtout le président.
Car oui, cet élan, cette symbiose entre un pays et une équipe de foot intéresse forcément les politiques. Et pas qu'en France. La présidentielle au Brésil aura lieu seulement 3 mois après le mondial, rappelle Chérif Guémour, journaliste au magazine SoFoot, rebaptisé Sao Foot, le temps de l'événement.
Le foot au Brésil, ça a toujours été un vecteur politique très 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 important, qui a été instrumentalisé aussi bien par les démocraties, comme Kubitschek en 58, qui a fait de la première victoire du Brésil en 58 une des séquences phares du nouveau Brésil. Et ça a été aussi évidemment instrumentalisé par la dictature qui a duré de 64 à 85, donc qui ne s'est pas gêné pour exploiter, et instrumentaliser, récupérer les grands succès de l'équipe du Brésil. Donc voilà, Dilma Rousseff et son nouveau gouvernement, le Parti des Travailleurs, ils n'échappent pas à la règle. Et ça va être aussi l'occasion de mettre le Brésil en vitrine à travers un événement sportif mondial. On va essayer de gagner des brevets de pays émergents, mais de pays émergents capables d'organiser des grands événements.
<t'-> Le Brésil attend le monde, au stade ou au bar, devant leur télévision, ou l'oreille collée à la radio, les supporters sont prêts à vibrer dès que leur hymne national retentira.
Ah, moi j'adore. C'est mes moments favoris, j'adore ça. Depuis que je suis petit, quand j'avais 5 ans, on a gagné en 98, c'était génial. Ensuite en 2000, c'était super. J'adore cette ambiance, c'est mon enfance. J'en garde que de mon souvenir. Donc, je sais pas, c'est... Ça vibre. En plus, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression, parce que quand ça commence, finalement, on dit qu'on est détaché, qu'on s'en fiche. Et dès que ça commence, on ressent cette pression, on est stressé, on est derrière eux. Espérons que ça se passe bien et qu'ils donnent leur maximum et qu'on réussisse.
La Coupe du Monde, miroir des fiertés nationales. Grand reportage de Bruno Faure, réalisation Eva Moschinski.
Bruno Faure, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors, on sent bien que cet événement déclenche des réactions parfois irrationnelles au nom de la patrie. On est allé parfois jusqu'à la guerre.
Oui, en 1969, un match entre le Honduras et le Salvador, deux pays d'Amérique centrale qui se disputent une place pour le mondial mexicain. Ils sont déjà au bord du conflit armé et la rencontre, la victoire du Salvador dans une ambiance détestable est suivie quelques heures plus tard de violents incidents, puis quelques jours après de combats militaires. Des milliers de morts pour ce qu'on a appelé plus tard la guerre du football.
Est-ce qu'un match de Coupe du Monde aujourd'hui pourrait encore mettre le feu aux poudres ?
Oui, certaines rencontres sont potentiellement dangereuses. On pense par exemple à un Angleterre-Argentine qui est possible en demi-finale. La question des Malouines reste très sensible entre Londres et Buenos Aires. Il y a un match resté célèbre en 86, 4 années donc après la guerre entre l'Argentine et le Royaume-Uni. Diego Maradona en avait fait une affaire personnelle. Maradona, après avoir assommé les Anglais avec 2 buts, avait ouvertement parlé de vengeance. On a battu un pays, disait-il, pas seulement une équipe de football.
Alors, c'est souvent ça, du fait de la passion dans les pays participants, le mondial devient, somme toute, un outil de propagande politique.
Mussolini l'avait compris dès 1934, la deuxième édition de la Coupe du Monde, que l'Italie avait organisée puis remportée. Mussolini, pourtant à l'origine, n'était pas un fan de foot, un sport trop anglais pour lui, mais il s'est laissé convaincre. Les joueurs et les arbitres ont dû faire le salut fasciste. L'Allemagne d'Hitler était candidate pour organiser l'édition 1942, annulé bien sûr, le Zaïre de Mobutu, la Corée du Nord de Kim Jong-il ont beaucoup misé aussi sur la participation de leur équipe nationale à la Coupe du Monde. Les joueurs revenus au pays après l'élimination, parfois sans gloire, l'ont souvent payé.
La ferveur autour de la Coupe du Monde, le rêve d'une victoire, sont beaucoup utilisés par les, on l'a vu un instant, par les dirigeants politiques, mais aussi par les publicitaires.
Oui Laurent, et c'est assez impressionnant. Ici en France, à quelques jours du Mondial, le nombre de pubs qui rebondissent sur l'événement à chaque fois pour entretenir l'espoir d'un titre pour les Bleus. Il y a même des sites internet qui donnent des idées d'action marketing spéciale Coupe du Monde, même pour ceux qui n'aiment pas le football. Là, il faut créer des contre-événements. Tout est bon pour faire vibrer le pays tant que la victoire et le bon esprit sont au rendez-vous.
Comme le vôtre. Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter sur...
sur RFI.fr.
Bruno Faure, merci beaucoup. Bonne journée.
Football, 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 en vrai sportif, nous faisons confiance. Football, 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 pour l'arbitre, un petit peu d'indulgence. Football, 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 tu es vraiment le bain de jouvence. On fait semblant de rien, même chanson.